Bonjour Jean-Éric Branard.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des États-Unis. Le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen se rendront à Washington le 20 octobre prochain pour rencontrer le président américain Joe Biden à l'occasion d'un sommet Union européenne-États-Unis. Alors le but de ce sommet sera de renforcer le partenariat stratégique de l'Union européenne avec les États-Unis et de faire face aux défis communs. Qu'en que comprendre par cette formulation ?
Alors d'abord, c'est de renforcer effectivement les liens entre l'Union européenne et les États-Unis, de renforcer aussi cette coopération qu'il y a en aide à l'Ukraine, qui est si importante, et bien sûr, travailler pour la transition écologique et contre le changement climatique, qui est le grand dossier du moment, autant en Europe qu'aux États-Unis. Et il faut bien entendu, travailler main dans la main, les uns avec les autres. Ça, c'est pour ce qui va bien et qui met tout le monde d'accord.
Et donc renforcer les liens, ça veut dire que les liens se sont un peu détendus, se sont tendus?
Non, pas du tout. Les liens ne se sont pas détendus et on a vu que, notamment depuis la crise en Ukraine, tout allait très bien. Des deux côtés de l'Atlantique et que ça marchait quasiment d'un seul pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelques petits cailloux dans la chaussure et c'est ce qui va être sur la table particulièrement. On pense notamment aux taxes sur l'acier et l'aluminium, qui est un dossier non réglé depuis que Trump l'avait mis en place le 30 juin 2018 et sur lequel il faudra bien aboutir puisque la date limite pour ce dossier, tel qu'on cela avait été établi il y a quelques mois, c'était le 31 octobre.
Justement, ces droits de douane sur l'acier et l'aluminium, il est là le gros point noir des relations entre l'Union européenne et les États-Unis?
C'est un des grands problèmes entre les deux, effectivement, parce que l'Union européenne avait interjeté appel auprès de l'OMC et qui avait décidé fin janvier de donner raison à l'Union européenne en expliquant que la raison avancée par les États-Unis, à savoir faire jouer l'article 232 de la sécurité nationale pour pouvoir mettre des taxes sur l'acier et l'aluminium, n'était pas valable. Et donc, il fallait revoir la copie. Donc, c'est vrai que ces taxes qui touchent l'Union européenne et les Chinois, ne l'oublions pas, va désormais être rediscuté. Ce qui est en cause, ce n'est pas tant de le discuter pour les Européens, car c'est déjà un fait acquis, c'est de pouvoir continuer à mettre des taxes sur l'acier et l'aluminium qui provient de Chine, qui est à bas prix et qui pose un problème tant aux États-Unis qu'à l'Europe. Et là-dessus, ils sont également d'accord qu'il faut faire quelque chose ensemble pour essayer de rétablir la balance commerciale.
Vous l'avez dit, l'Ukraine sera évidemment sur la table. Lors de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière, Joe Biden a annoncé débloquer plusieurs milliards de dollars pour l'Ukraine. On doit s'attendre à de fortes décisions de la part des États-Unis et de l'Union européenne lors de ce sommet?
Alors je crois qu'on va être sur la continuité. Alors bien sûr, il va être question des missiles à longue portée dont on parle là depuis quelques semaines et que Joe Biden a promis ou aurait promis, puisque pour l'instant on ne les a pas vus à Zelensky quand il est venu à Washington, à New York et à Washington. Mais au-delà de cela, c'est surtout encore une fois une occasion de dire que tout le monde est main dans la main et que personne ne faiblit, même si la guerre devait durer très longtemps. Et c'est ça le message qu'il faut rabâcher encore et encore, parce que chacun doit comprendre que ça ne va pas se jouer en quelques semaines, mais que la difficulté pour tout un chacun, hein, au niveau des Européens, et ce qu'on ressent dans notre vie, va se poursuivre encore longtemps. Si vous me permettez, il y avait un autre dossier qui était problématique pour les Européens, c'est celui de l'Inflation Reduction Act, qui est là aussi, qui a trait au changement climatique et aux émissions de carbone. Mais ce qui pose problème pour les Européens, c'est que aux États-Unis, tout cela est financé et très financé avec une priorité nationale, et les Européens estiment qu'ils y perdent des centaines de milliards dans cette affaire, et ils ont très peur que l'industrie automobile soit délocalisée aux États-Unis au détriment de l'Europe.
Justement, sur le point du réchauffement climatique, ce sera abordé. L'Union européenne et les États-Unis ont tendance à critiquer la Chine pour son émission de CO2. Ne sont-ils pas un peu les distributeurs de bons points dans cette histoire ?
Alors, ils sont peut-être distributeurs de bons points, mais les États-Unis sont revenus dans les accords de Paris. Ils acceptent les règles contraignantes qui ont été discutées dans ces accords et là, dans les différents accords internationaux. D'ailleurs, même si ça remet en cause le mode de vie, on se souvient, hein, sous Clinton, et alors qu'Al Gore était vice-président et qu'on discutait beaucoup de ces questions-là à ce moment-là, il avait été dit que les Américains ne pouvaient pas bouger sur leur mode de vie. Or, aujourd'hui, ils y sont prêts. Et Biden a mis le pays sur une voie importante, hein, puisque désormais, il travaille pour changer le thermique en électrique. Là, je parle des voitures, mais au-delà de cela, il est également pour qu'il y ait un processus industriel faible en émissions de CO2. Et c'est là-dessus que Européens et Américains sont entièrement d'accord et vont viser la Chine, qui est accusée, là, pour le coup, d'avoir une industrie très riche en émissions de CO2 et de financer en plus cette industrie très fortement au détriment de la planète. Donc il y a là effectivement un dérèglement qu'il faut pouvoir régler de façon multilatérale.
À l'intérieur même des États-Unis, la crise actuelle dans le monde de l'automobile ne va pas jouer sur cette décision de Joe Biden de passer au thermique ?
C'est effectivement la grande crainte que l'on peut avoir. On est dans une campagne électorale extrêmement rude, dure, et un des enjeux de cette campagne va être effectivement la mutation vers l'électrique. On le voit, Donald Trump a mis cet argument comme un argument numéro un, hein, dans sa liste de priorités. Il ne veut pas passer à l'électrique. Il l'avait déjà dit quand il était président. Il s'était d'ailleurs retiré des accords de Paris en pensant que tout ça était une vaste blague et qu'en réalité, le changement climatique n'était que des aléas climatiques qui reviennent, selon lui et selon la thèse des climato-sceptiques, de façon assez régulière, sans qu'on ait de prise dessus et surtout sans lesquelles l'homme n'a de responsabilité. C'est la thèse qu'il défend. Alors, luttant contre l'électrique, c'est bien sûr pour Donald Trump et ses amis, le groupe qui le soutient et les industriels qui sont derrière sa candidature, l'idée de soutenir l'industrie polluante et le fossile, donc le charbon, le pétrole, le gaz, qui reste une manne extraordinaire pour les États-Unis, qui a enrichi d'ailleurs les États-Unis ces dernières années, qui l'a rendu d'ailleurs autonome en pétrole grâce au forage à partir de la fracturation hydraulique. Donc il y a là effectivement un vrai enjeu dans cette campagne qui pourrait changer l'avenir de notre monde suivant que Donald Trump gagne ou pas cette prochaine présidentielle.
Il s'agira sûrement du dernier déplacement aux États-Unis des deux dirigeants européens dans ce mandat-ci. C'est une façon pour eux de clôturer, d'aller voir Joe Biden à Washington ?
Alors, on pourrait effectivement le voir comme ça. Je crois, moi, qu'il y a plutôt une continuité. Rappelons-nous que la dernière fois, c'est Joe Biden qui est venu, qui a assisté aux séances de la Commission européenne. Et là, il y a une réciprocité qui est intéressante, hein, puisqu'on semble vouloir s'installer dans la durée entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, recréer un axe qui avait été largement délaissé par les États-Unis depuis 10 ans. On parlait de ce pivot asiatique déjà depuis Obama. On voyait que les États-Unis étaient plutôt tournés vers l'Asie et qu'ils voyaient leur avenir uniquement dans cette zone dans laquelle on dit qu'il y aura entre 70 et 80% du commerce mondial dans les années qui viennent. Donc c'est intéressant de voir que les Américains reprennent contact avec l'Europe et que les Européens encouragent cette reprise de contact des deux côtés. Je crois qu'on ne peut que s'en réjouir.
Jean-Éric Brana, je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci.